BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va parler bien sûr du Brexit J-2. On va en parler avec celui qui est député de La République En Marche des Français établis en Europe du Nord. Et en plus, il est franco-britannique. Alexandre Leroy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous nous direz un peu comment vous voyez les choses, quels sont les enjeux. Vous nous raconterez aussi peut-être le climat, comment c'est en Grande-Bretagne. Ensuite, c'est Hubert Carré. Hubert Carré, il est directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Vous savez que la pêche est un des gros dossiers, peut-être une pomme de discorde entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et puis ensuite, c'est Carlo Pourasanta, qui est le patron de Microsoft pour la France, qui nous dévoilera sa nouvelle feuille de route. Mais tout de suite, les infos avec Aurélie Planex. Bonjour Aurélie.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. On commence bien évidemment avec l'impact économique du coronavirus qui commence à se faire sentir. Toyota a décidé de prolonger l'arrêt de ses usines en Chine jusqu'au 9 février. De son côté, la compagnie indonésienne Lion Air suspend tous ses vols vers la Chine, comme British Airways l'a déjà fait hier. Starbucks ferme de son côté la moitié de ses points de vente en Chine. Ce matin, la bourse de Hong Kong, qui était fermée depuis la fin de la semaine dernière en raison du nouvel an chinois, a plongé de 2,8% en clôture. Le bilan humain se monte désormais à 130 morts et plus de 6000 personnes infectées. Cette épidémie pourrait aussi avoir un impact sur les activités d'Apple. Le groupe a en effet des fournisseurs dans la région de Wuhan. Nous surveillons cela de très près, a dit hier Tim Cook, le patron d'Apple, qui présentait des résultats exceptionnels pour le premier trimestre de son exercice 2020. Chiffre d'affaires en hausse de 9%, quasiment 92 milliards de dollars et un bénéfice de plus de 22 milliards.
Et je reparlerai bien sûr avec le patron de Microsoft pour la France, les conséquences aussi pour Microsoft qui a des usines qui travaillent beaucoup avec la Chine.
Nissan va de nouveau réduire la voilure. Selon Reuters, le groupe japonais prévoit de supprimer au moins 4300 postes et de fermer deux usines. Un plan qui doit lui permettre d'économiser 4,5 milliards de dollars supplémentaires. Nissan avait déjà annoncé cet été 12 500 suppressions de postes à travers le monde d'ici à 2023. Et puis ce matin, le cabinet de l'un des anciens avocats de Carlos Ghosn au Japon a été perquisitionné. L'unité d'enquête spéciale du bureau des procureurs de Tokyo essaie de déterminer si ces anciens avocats ont pu, d'une façon ou d'une autre, être complices de sa fuite. Jean-Pierre Clamadieu va sans doute bientôt prendre la direction opérationnelle d'Engie. Selon les informations de BFM Business, le président d'Engie va prendre la direction générale du groupe par intérim après le départ d'Isabelle Kocher, départ qui devrait intervenir d'ici un mois. Engie engagera ensuite un processus pour se trouver un nouveau patron, mais cela devrait prendre plusieurs mois. Les détails là-dessus sur notre site internet bfmbusiness.com. Le moral des ménages qui rebondit, il gagne 2 points en janvier selon l'INSEE. Les ménages sont plus optimistes sur leur situation financière future et sur leur capacité d'épargne. On termine avec la Bourse de Paris où le CAC 40 ce matin est en léger rebond, plus 0,5%, 5 953 points. Un coup d'œil sur les devises. L'eurodoll, 1,1001. BFM Business, il est midi 2.
Jour de divorce aujourd'hui entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. On en parle tout de suite avec le député de La République En Marche, Alexandre Leroy.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Merci d'être avec nous, Alexandre Leroy. Je rappelle donc, député des Français établis en Europe du Nord. Vous êtes co-rapporteur du groupe du suivi du Brexit, justement, à la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous êtes franco-britannique. Je crois même que vous avez lancé le mouvement En Marche à Londres, dans la City, non? C'est ça?
J'ai fait partie de ceux qui ont lancé le mouvement à l'international, parce qu'on a beaucoup de concitoyens qui vivent à l'international. Et je fais partie de ceux qui ont participé au lancement de La République En Marche pour tous les Français qui habitent à l'étranger.
Alors, je disais jour de divorce parce que je sais bien que c'est vendredi, on est J-2, mais en même temps, c'est aujourd'hui, tout à l'heure, qu'a lieu le vote du Parlement pour ratifier l'accord du Brexit. Qu'est-ce qui va faire peur? Peur, c'est pour ça que je cherchais une autre expression. Qu'est-ce qui est, à votre avis, les points absolument clés pour l'Union européenne dans les prochaines semaines?
Dans les prochaines semaines, il y en a moins parce que Michel Barnier a fait un travail remarquable et dans la négociation du divorce, dans la négociation de l'accord de séparation, il s'est assuré qu'il y avait une période de transition de presque un an jusqu'à la fin de l'année, où en fait toutes les choses qui nous concernent le plus restent les mêmes. Et c'est dans cette période qu'on doit négocier l'ensemble de la négociation future. C'est-à-dire que, en fait, samedi, on va se réveiller. La seule différence notable, c'est que les parlementaires britanniques ne seront plus au Parlement européen, qu'il n'y aura plus de commissaires européens britanniques, que les Britanniques sortent des institutions politiques.
Ça sera le cas ce soir, parce qu'ils font leurs adieux ce soir.
Ils font leurs adieux ce soir, mais techniquement, oui, ça sera vendredi. Mais la réalité, c'est que les choses resteront presque les mêmes jusqu'à la fin de cette période de transition. Donc c'est vraiment l'enjeu des prochains mois maintenant, c'est de négocier une relation future ambitieuse, une relation future, si vous voulez, qui est représentative de la proximité qu'on a avec les Britanniques, mais qui protège impérativement les intérêts français, les intérêts du marché commun.
Oui, je vais vous poser la même question que j'ai posée ce matin à Sandro Gozzi, que vous devez connaître, qui est futur député européen Renaissance, donc la République en marche, ancien ministre des Affaires européennes pour le gouvernement italien, et puis ex-conseiller justement d'Edouard Philippe sur cette question. Est-ce que finalement la dynamique, elle n'est pas du côté de la Grande-Bretagne, bizarrement, et du côté de l'Union européenne, on sent qu'on est tous un peu perturbés, chagrinés, qu'on se regarde un tout petit peu en se disant qu'est-ce qui nous arrive.
Non, on a
psychologiquement, elle est quand même. On voit que Boris Johnson, il a une espèce de pêche, il l'entraîne, alors que la dynamique, elle est du côté anglais.
On a toujours été très clair du côté européen, que ce soit les chefs d'État de chaque État membre ou que ce soit les institutions européennes, Michel Barnier, l'ancien président de la Commission européenne, on regrette le Brexit. C'est une nouvelle qui nous attriste et c'est une nouvelle, on pense, qui nous affaiblit collectivement, c'est-à-dire les 27, les 28 et le Royaume-Uni seul. Cet élément-là n'a pas changé. Mais aujourd'hui, s'ouvre une deuxième page, un deuxième chapitre où il faut négocier une relation future. Boris Johnson, il sort d'une élection qu'il a gagnée haut la main, donc peut-être qu'il a confiance. Mais il ne faut pas se leurrer. Vous parliez un peu de l'ambiance au Royaume-Uni. Aujourd'hui, le Royaume-Uni reste un pays très divisé, où il y a des gens qui vivront vendredi comme un deuil. Il y a des gens qui le célébreront, il y a des gens qui le vivront comme un deuil. Et la négociation qui s'ouvre va être difficile. Elle concerne quasiment tous les secteurs d'industrie, tous les secteurs elle concerne la finance, elle concerne la pêche, l'agriculture, etc. Et ça va être une négociation compliquée où on a des intérêts entre jeux, mais où l'impact potentiel sur l'économie britannique est nettement plus conséquent que sur l'économie européenne.
Je recevais Louis Gallois, là, qui est le président du conseil de surveillance de PSA, mais qui est un peu le commandeur de l'industrie française. Il disait, mais notamment pour l'industrie automobile, mais pas que, il faut absolument que l'industrie britannique s'en sorte bien. Il faut qu'il y ait des gagnants-gagnants. On ne peut pas avoir un gagnant et un perdant, en l'occurrence la Grande-Bretagne. Donc dans les négociations, est-ce qu'il y aura cette main tendue ou pas?
Absolument. Je pense qu'il y a un équilibre qui est difficile à trouver.
Oui.
C'est une négociation. C'est une négociation difficile où il y a des intérêts des deux côtés à défendre. Et nous, ce qui est impératif, c'est que nos acquis sociaux, nos acquis environnementaux, nos acquis fiscaux, on les préserve. Mais de l'autre côté, personne n'a envie qu'un parti ou l'autre, en l'occurrence plutôt le Royaume-Uni, vive une crise économique majeure. Tout le monde veut qu'on en sorte avec une conclusion gagnante-gagnante. Et ça, pour moi, il y a une solution très claire. C'est plus les Britanniques acceptent de se cadrer sur nos standards. C'est-à-dire, plus les Britanniques acceptent d'avoir les mêmes standards, les mêmes réglementations que l'Union européenne, plus ils auront accès au marché commun, moins l'impact économique sur l'économie britannique sera conséquent. C'est assez simple comme équilibre.
Oui, vous avez raison, Alexander Leroy. En même temps, on voit bien que ce n'est pas forcément la ligne de crête que va suivre Boris Johnson, hein, parce qu'il a dit le libre-échange, c'est formidable, c'est extraordinaire. Il reçoit aujourd'hui Mike Pompeo, l'Américain, au commerce. Donc, on sent qu'il y a une tentation quand même de baisser tous les standards, notamment sociaux.
Alors, je suis sûr qu'il y a des tentations dans le Parti conservateur. Moi, j'écoute certains membres du Parti conservateur qui ont cette tentation-là. Aujourd'hui, moi, j'imagine que la discussion de Boris Johnson avec Mike Pompeo tournera autour de la décision du Premier ministre de permettre à Huawei de développer le 5G. Je ne suis pas sûr que ce sera une décision très facile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une négociation commerciale... Une négociation commerciale, qu'elle soit avec les États-Unis, qu'elle soit avec Bruxelles ou qu'elle soit avec un autre pays, c'est un moment de négociation difficile. Or, aujourd'hui, il y a un intérêt britannique clair à trouver en premier lieu un accord ambitieux avec l'Union européenne. Qu'en parallèle, ils veulent avoir des discussions avec d'autres pays, très bien, ces discussions auront un impact sur leur capacité à trouver un accord avec l'Union européenne. Je vous donne un exemple très simple. Sur l'agriculture, les Britanniques choisissent de s'aligner avec les standards américains. Ils n'ont plus accès au marché commun européen. Ouais. Point final. Mmh. C'était aussi clair que ça. Donc, les Britanniques vont avoir des choix à faire. Aujourd'hui, il y a eu, dans les trois dernières années depuis le référendum, il y a eu beaucoup de déclarations. Maintenant, dans les 11 mois qui suivent, est venu le temps des choix. Et les Britanniques ont beaucoup de choix à faire.
Oui, beaucoup de choix à faire. Dans la pêche, notamment, on en parlera dans un instant avec Hubert Carré. Mais c'est le... Est-ce que la France, à votre avis, est le pays européen qui s'en sort le mieux, qui profite le mieux du Brexit ? Allez, soyons un tout petit peu trivial.
Non, je pense que personne ne profite du Brexit dans le grand ordre des choses. Alors, peut-être qu'ici et là, il y a quelques entreprises qui bougent un peu des effectifs. Dans la place de Paris, notamment, a gagné un certain nombre d'effectifs qui se sont déplacés de Londres. Mais la réalité, c'est que c'est une histoire, dans le grand ordre des choses, qui est perdant-perdant. Donc maintenant, il faut qu'on minimise les dégâts et il faut qu'on trouve une relation qui nous permet de développer la prospérité commune et de garder cette relation qui est une relation millénaire qu'on a avec les Britanniques. Qui a toujours été difficile, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est une relation qui dure depuis 1000 ans et qui a vocation à durer. Donc aujourd'hui, pour nous, il y a un élément qui est très clair, c'est la priorité européenne doit être de préserver les standards de vie européens. Mmh. Et les Britanniques doivent se plier à cette règle d'air.
Est-ce que vous qui êtes franco-britannique, est-ce qu'il faut à la limite se mettre à reparler le français au sein de la Commission européenne ? Après tout, parce qu'il y a 66 millions d'habitants en moins et 66 millions de Britanniques en moins au sein de l'Union européenne. Hein. Donc, après tout, le français va devenir la première langue.
Alors, le français est toujours une langue, enfin, a toujours été une langue officielle, et tous les documents de la Commission européenne sont traduits en français. Ouais. Et chaque, dans n'importe quelle réunion officielle, libre à chacun de parler la langue qu'il veut tant que c'est une langue officielle de l'Union européenne. Ça doit rester le cas. Après, je veux dire, il n'y a pas l'ombre d'un doute certains de nos partenaires européens, entre eux, dans des réunions informelles, préfèrent parler anglais. Et au fond, on ne peut pas imposer aux gens la langue qu'ils vont parler quand ils rencontrent dans les couloirs.
Y compris le porte-parole qui est français de la Commission européenne, parle d'abord en anglais. Donc c'est là où on peut se dire qu'il faudrait peut-être défendre les couleurs tricolores. Bon, enfin, c'est moins important. La politique agricole commune, comment est-ce que ça va... Comment le divorce va se faire ? Notamment, pour le coup, du côté britannique, parce qu'on sait qu'il y avait des subventions, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, extrêmement importantes, versées aux Britanniques, notamment à la Couronne d'Angleterre.
Alors, il y a des subventions très conséquentes que les Britanniques reçoivent, à la fois à la Couronne d'Angleterre et puis dans des régions plus pauvres du Royaume-Uni, qui vont avoir des vraies difficultés.
Hein. C'était quoi le montant ? Vous l'avez en tête ou pas ?
J'ai pas le montant en tête, mais dans des régions plus pauvres du Royaume-Uni qui vont l'avoir en grande difficulté, et ça va faire partie de ces négociations. C'est-à-dire, à quel degré est-ce que les Britanniques veulent participer à, par exemple, la politique agricole commune ? La décision qui revient dans une grande partie aux Britanniques dans cette négociation, c'est est-ce qu'ils veulent participer à des programmes européens ? Si vous participez à un programme européen, la politique agricole commune, vous avez une série d'obligations, vous devez contribuer au budget, vous devez respecter des règles, et ainsi de suite, et vous avez une série de droits qui va avec. Il y aura une espèce d'échelle, une pyramide. Si vous respectez ces obligations et ces droits, vous aurez un certain accès. Si vous faites l'inverse, vous en aurez moins. Et ça, les Britanniques doivent nous donner une indication de ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui, et à partir de là, une négociation peut s'engager.
Est-ce que, puisque vous n'êtes pas député européen, vous êtes député à l'Assemblée nationale, donc est-ce que la voix de la France, on voit bien qu'Emmanuel Macron a fait des grands discours, des très belles déclarations de son amour pour l'Europe, mais que pour l'instant, on a du mal à trouver, en tous les cas, un équilibre, une ambition, on va dire, une nouvelle vision pour l'Europe. Comment faire pour que l'Europe réussisse à, peut-être, je dirais, à dynamiser une nouvelle génération à laquelle vous appartenez ?
Alors, je dois dire que je ne partage pas tout à fait vos constats.
Non, j'imagine, mais enfin, c'est un constat.
La nouvelle présidente de la Commission a présenté un projet maintenant très ambitieux pour l'Europe dans les 5 ans qui suivent. Alors, il convient de le mettre en œuvre, mais très ambitieux néanmoins. Et c'est surtout à l'initiative du président de la République. Si vous reprenez aujourd'hui le programme de la Commission européenne, vous retrouverez beaucoup d'idées que le président de la République avait développées dans le discours de la Sorbonne. Oui. Il y a des désaccords. Il y a des désaccords, c'est la norme. On est des pays différents, on a des cultures politiques différentes. Il y a des désaccords. Mais on avance. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le budget de la zone euro. Ben, écoutez, il y a eu des compromis. Ce n'est pas tout à fait tout ce qu'on voulait. Mais en même temps, il y a aujourd'hui une proposition de la Commission qui est adoptée par principe par le reste des États membres pour avoir un BIC, c'est-à-dire un budget dans l'investissement, un budget pour l'investissement et la compétitivité. Donc, il y a des progrès notables qui sont faits dans énormément de domaines. Cela dit, je pense que vous posez une question très intéressante qui est le Brexit, c'est le résultat de particularités britanniques. Les Britanniques ont une relation particulière à l'Europe. Mais c'est aussi un constat d'échec dans certains éléments de l'Europe. Et il faut qu'on se souvienne.
Il ne faut pas l'oublier.
Il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a un travail de réflexion à faire sur notre Europe.
Non, mais c'est un euphémisme.
Ouais. Qui est très important pour qu'elle soit plus efficace, pour qu'elle réponde plus rapidement aux demandes de nos concitoyens et qu'elle réponde de façon plus efficace aux grands défis de notre temps, au changement climatique, à la concurrence internationale, au commerce international. Et dans cette histoire du Brexit, il y a évidemment un travail de négociation à faire avec les Britanniques. Il y a aussi un travail de réflexion à faire sur l'Europe et comment est-ce qu'on peut améliorer son fonctionnement.
Bah oui, je pense que c'est même essentiel, en fait. Et que pour l'instant, on voit bien qu'il y a des élections. En plus, les calendriers politiques ne sont pas du tout les mêmes. Ne serait-ce qu'avec les Allemands.
Ah, les calendriers politiques ne sont jamais les mêmes. Ça, c'est la norme en Europe. Hein. On est 27 pays. Du coup, il y a des élections qui s'échappent.
OK, mais ça, là, vous avez... Pardon, ce que je veux dire, c'est que vous prenez la succession d'Angela Merkel, sera pas, ça se joue là, quoi. Voilà.
Mais donc, vous savez, l'Europe s'est construite. Aujourd'hui, on a quand même une Europe qui est remarquable. Ouais. Des programmes, la politique agricole commune, qui sont remarquables, qui aident énormément de nos concitoyens à vivre.
Ouais.
Et cette Europe-là, elle a été construite avec des calendriers politiques qui étaient différents. Mmh. Les calendriers politiques n'ont jamais été les mêmes. Ils n'étaient pas plus les mêmes dans les années 90, dans les années 80, ou dans les années 70 qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, on avance en dépit des calendriers politiques. Et d'ailleurs, grâce à eux, puisque les calendriers politiques, c'est aussi l'occasion pour le peuple européen
c'est drôle,
de s'exprimer.
Vous voyez, là encore, je rentre de Davos, quand vous parlez avec des Allemands, ils ne sont pas du tout, enfin, ils sont en mode discours, là, c'est pas du tout ce qu'on entend. Enfin, on est même très loin. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment, j'ai envie de dire, en vous écoutant, je dis qu'on est encore plus dans une divergence.
Mais, vous savez, moi, j'étais à Berlin il y a quelques mois pour parler de la zone euro, l'union des marchés des capitaux. Les Allemands, ils sont 100% pour. Ils poussent pour. L'union bancaire,
avec leurs conditions.
100% pour. Ils poussent pour. Donc, on a des différences d'interprétation technique. On négocie, c'est des négociations difficiles. Mais la réalité, c'est que l'objectif, les objectifs principaux, d'avoir une union des marchés des capitaux, d'avoir une union bancaire, d'avoir une politique agricole commune qui marche, d'avoir une politique climatique qui marche. Moi, je vous dis que vous alliez au CSU, au CDU, au SPD, au Vert, vous trouverez.
Oui, mais c'est les conditions. On en parlera demain avec mon invité Christian Loyer. Vous connaissez bien l'ancien gouverneur de la Banque de France. Après, c'est la manière dont il voit l'union des marchés des capitaux. On n'a pas forcément la même vision. Les banques françaises, pour le coup, sont beaucoup plus solides que les banques allemandes. Elles n'ont pas besoin des mêmes peut-être critères prudentiels.
On a des différences de perspectives et on avance et on négocie en partenariat. Il y a eu du travail remarquable qui a été fait d'ailleurs sur le sujet de l'union des marchés des capitaux pour allier des priorités différentes. Alors il y a des pays qui aimeraient plus de solidarité au sein de la zone euro dont on fait partie. Il y a des pays qui aimeraient plus de responsabilité. Mais d'opposer ces deux pôles-là, c'est complètement contre-productif. La réalité, c'est qu'ils vont main dans la main et qu'on trouve des compromis qui avancent main dans la main. C'est très clair. Il y a des propositions très concrètes.
Il y a qu'un faucon. C'est que pour l'instant, on n'observe pas tellement ça. Enfin, voilà, y compris sur le marché des capitaux, c'est très difficile. Et il y a une tension. Vous en parlez avec les gouverneurs différents. Vous dites qu'il y a des tensions extrêmement fortes.
Regardez la déclaration de Meseberg.
Oui.
La déclaration de Meseberg, qui est engagement pris par la chancelière et le président de la République. La déclaration de Meseberg, un an plus tôt, tout le monde aurait dit c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Est-ce que les Allemands vont signer à une surassurance chômage? Impossible. Alors qu'ils l'ont fait. Donc il y a des progrès notables qui sont faits. Ce sont des progrès qui s'accomplissent dans un travail complexe de négociation avec, comme vous dites, des modèles économiques différents, des modèles politiques différents. Donc c'est compliqué, mais on avance. Et on avance grâce à une volonté très très forte du président de la République et aujourd'hui de la France.
Eh bien voilà, espérons que vous avez raison. En tous les cas, c'est votre rôle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Alroy, donc député La République En Marche, on l'avait compris, des Français établis en Europe du Nord, et donc au rapporteur de ce groupe de suivi. C'est important, ça veut dire que vous connaissez bien le dossier du Brexit à la Commission des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale. Dans un instant, mais justement, c'est un des dossiers qui fâche, la pomme de Discord. La pêche, on en parle avec Hubert Carré, qui est directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Un point aussi important. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Mon invité, c'est Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Je n'ai rien oublié. Hubert Carré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. On parlait beaucoup de la pêche en disant, ben voilà, c'est le dossier principal de tension entre, enfin, avant même le Brexit, du reste, entre les Britanniques et les Français. C'est vous qui défendez tous les pêcheurs français, notamment de Boulogne, que vous connaissez bien, Boulogne-sur-Mer.
Oui.
Est-ce que, pour vous, la pêche, c'est vraiment un des enjeux, enfin, aujourd'hui, vous êtes extrêmement inquiet à 2 jours du Brexit.
Alors, on n'est plus inquiet, je vais vous dire pourquoi, mais
on l'est toujours, parce qu'effectivement, il y a toujours un doute avec nos amis anglais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 ans, on était très inquiets, parce qu'on savait que les Anglais allaient voter en faveur du Brexit. Et le lendemain, on a alerté, parce qu'on savait très bien que depuis quelques années, il y avait une volonté des pêcheurs britanniques de récupérer leurs eaux. Voilà. Et donc, dès le lendemain, nous, on a alerté et on a dit la pêche est un sujet principal, parce que, bien entendu, c'est un sujet économique qui concerne aussi l'Union européenne, mais aussi c'est un enjeu géographique, parce que c'est, bon, à part le trafic aérien, on est bien dans un espace où il y a qui est géographiquement délimité avec une frontière, où là où il y avait des droits historiques, où là où depuis des années les pêcheurs avait l'habitude de pêcher.
Oui. Tiens, c'est l'occasion, parce qu'on parle rarement de pêche, donc ça va être l'occasion d'en parler, faire un petit éclairage. Les chiffres clés de la pêche en France, emploi direct, c'est quand même quoi? C'est près de 50 000 personnes,
oui,
à peu près?
Oui, tout à fait, oui, parce qu'on a un emploi en mer, et donc pour un emploi en mer, 3 emplois à terre.
Oui. Les navires
5 000 navires en métropole, avec les DOM, 7 500.
Et est-ce que c'est plutôt en décroissance? C'est plutôt un métier?
C'est en maintien, parce que, alors c'est vrai qu'il y a des fluctuations, c'est vrai que si vous reportez comme il y a 30 ans, comme à l'agriculture, effectivement il y a une décroissance. Avant il y avait 12 000 navires, maintenant on est à 5 000 navires en métropole.
Oui. Qui sont détenus, je crois qu'il y a à peu près un peu plus de 3 000 entreprises.
Oui.
Est-ce que c'est, il y a de toutes petites entreprises.
Tout à fait.
Il y a des ETI et puis il y a des grosses
Alors ça va même, je dirais, du pêcheur à pied qui pêche des coquillages à titre professionnel sur l'estran, sur le rivage, jusqu'à des armateurs qui arment des navires pour pêcher la légine dans les taffes, qui ont des bateaux de 80 mètres, 100 mètres. Voilà, et on présente tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde.
Quand on regarde, quel est l'enjeu pour vous de ces eaux britanniques qui sont les plus poissonneuses, hein?
Tout à fait.
Quel est l'enjeu? Puis après, on verra déjà que les sanctions, ils sont en train de les brandir. On verra ça. Mais...
Voilà, alors si vous voulez, 30% du chiffre d'affaires de la pêche française dans les entreprises qui pêchent, ça vient des eaux britanniques.
Ah oui, c'est énorme.
Comme vous le dites très justement, les eaux britanniques sont très poissonneuses. Le poisson n'a pas voté le Brexit, et donc c'est du poisson qui alternativement va chez les Anglais, mais aussi va chez les Français, chez nous, chez les Belges, chez les Hollandais. Et donc on est ce qu'on appelle la notion de stock partagé, c'est-à-dire, et ça a son importance pour la suite des négociations, justement.
Oui, d'accord. Vous dites, on voit déjà vos arguments, hein, hyper carrés. C'est-à-dire, mais attendez, le banc de poisson, là, il est chez vous, mais demain, il pourrait très bien être chez nous.
Tout
même
fait.
Si ce n'est pas forcément vrai, parce que c'est plutôt du côté britannique qu'il se trouve.
Avec le réchauffement climatique, ça devient compliqué, quand même. Hein. Voilà. Et par exemple, on a fait des études, parce qu'on a mis des pins sur les bars, et on voit que le bar, par exemple, pour le suivre, on les capture à Cherbourg, on les relâche. De Cherbourg, ils remontent dans les polders en Hollande. Ils remontent la Tamise et ils reviennent du côté de Boulogne-sur-Mer. Donc, vous voyez, on a des évolutions quand même.
Et ça va quelques tonnes de plastique dans son voyage, c'est ça?
Des tonnes de plastique, non. Il y a du plastique en mer, ça, je vous l'accorde. Mais pas dans le poisson.
Les Britanniques, il faut savoir ça aussi, parce qu'il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur poisson, d'accord, mais ils exportent 80% de leur pêche, dont 75%, si je reprends vos chiffres, vers l'Union européenne. Donc, comment est-ce que vous voyez les choses, Hubert Carrière?
Justement, vous voyez, on est, par rapport aux autres secteurs économiques, on n'est pas du tout dans le même rapport de force. Et c'est ce qui fait la particularité de la pêche française et de la pêche européenne. Il faut savoir que la pêche a toujours été un peu le grain de sable dans la construction européenne. L'Islande n'a pas rejoint l'Union européenne à cause de la pêche. La Norvège non plus. Le Groenland s'est retiré à cause de la pêche. Et donc, nous, on ne voulait pas être la variable d'ajustement d'accords plus globaux. Et donc, c'est pour ça que l'on a dit tout de suite que nous, pêcheurs français, mais pêcheurs européens, parce qu'on a fait un consortium, une union. La particularité, c'est que c'est bien les Européens qui vont pêcher chez les Anglais, mais par contre, c'est bien les Anglais qui ne mangent pas leur production depuis très très longtemps et qui exportent à 80%. Donc le rapport de force est un petit peu différent. Mais ce qu'on ne voulait pas, et c'est ce que je voulais justement mettre en avant, on ne voulait pas que ça soit un accord pêche contre pêche, c'est-à-dire accès aux eaux, accès aux quotas, contre l'accès au marché. Nous, on veut quelque chose de plus global, parce qu'on ne veut pas justement que la pêche soit réduite à ce simple échange.
Oui, mais enfin, concrètement, C'est quand même ça, l'enjeu. Chacun a sa force de négociation, à son pouvoir de négociation.
Oui, tout à fait. J'imagine qu'actuellement, je suis écouté par nos amis anglais. Donc, on va avoir une négociation dans le cadre de l'accord futur qui va se dérouler sur toute l'année 2020. Et je pense qu'on doit être dans le gagnant-gagnant. Néanmoins, effectivement, on ne veut pas, et je reprends ce terme et qui a déjà été utilisé même par le président de la République, on ne veut pas que la pêche soit la variable d'ajustement. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être sacrifié sur des enjeux qui seraient plus importants économiquement. On sait bien que...
C'est un milliard 8, hein, grosso modo, la pêche en France.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, et on sait, et là aussi, un élément, c'est que on raisonne en filière, donc on raisonne en production et en transformation. Et là, toute la pêche britannique est en valeur ajoutée, transformée en France. Donc, on ne veut pas se couper aussi de cette source d'approvisionnement. Nos amis mareyeurs, conserveurs, transformateurs ont besoin à la fois du poisson européen et du poisson britannique.
Est-ce que là, il y a une solidarité européenne, au moins, là-dessus ?
Tout à fait. Oui. Alors là, on a été certainement le seul secteur en tant que pêcheur, ça paraît bizarre parce que généralement, on nous présente un petit peu toujours à vouloir se battre entre nous. On a été très rapidement solidaires avec nos amis allemands, belges, polonais, hollandais pour faire une union qui nous a permis de monter chacun vers nos gouvernements respectifs, mais surtout d'aller voir M. Barnier.
Oui, comme ça, il vous a entendu. Les principales espèces qui sont pêchées en France, c'est le lieu noir, le hareng, le merlan et le maquereau.
Oui, tout à fait. Oui.
Et dans les eaux britanniques, c'est quoi ?
Oui, c'est ceux
qu'on consomme et qui sont chez eux.
C'est ce stock partagé, quoi. Voilà.
Ouais.
Nos amis anglais viennent aussi, sont dépendants de nous pour la coquille Saint-Jacques. Et je pense, vous savez, toujours, il y a toujours des petits froissements de coquilles entre nos amis normands et anglais. Quoi. Mais ça se passe bien, oui.
Non, ça se passe pas bien.
Si,
il y a eu quand même une bataille navale, il me semble. Hein,
j'ai cru voir ça, Hubert Carré.
C'est encore la photo journaliste, c'est ça, qui a monté ça en épingle.
J'ai pas dit ça, mais c'était pour montrer que la pêche française et la pêche britannique existent.
Ouais. Un bon accord pour vous, donc on a compris, c'est-à-dire qu'il dépêche que ce soit un accord global.
Oui.
Mais pour vos marins pêcheurs, ce qui compte, c'est quelle pêche ils vont pouvoir faire.
Tout à fait, c'est un accord équilibré.
Oui, mais encore.
C'est-à-dire donnant-donnant et gagnant-gagnant.
Oui, ouais, d'accord, ça veut dire que...
Alors, vous savez que l'année 2020, on continue comme sur les années précédentes. C'est-à-dire que le temps de la négociation pour l'accord futur, rien ne change pour les flottilles européennes. Donc, on a accès aux eaux, ils ont accès à nos eaux, donc là, ça se passe. Donc, nous, on voudrait garder la même chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Britanniques ont l'obligation en droit international d'avoir un accord de pêche avec l'Union européenne dans le cadre de ce qu'on appelle les stocks partagés, les stocks chevauchants. C'est-à-dire quand un stock géographiquement
bouge.
Et donc ce que l'on veut, c'est continuer ce qui s'est passé, je dirais, depuis l'adhésion des Britanniques dans l'Union européenne. Voilà. Je pense que il n'y a pas de raison que ça change.
Mais en même temps, j'ai vu ça, que le gouvernement britannique avait annoncé qu'un texte visant à interdire aux Européens l'accès automatique aux eaux poissonneuses du Royaume-Uni serait mis en œuvre à l'issue de la période de transition. Et ce texte sera présenté dans la journée au Parlement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que eux, mais sur d'autres secteurs, ça sera identique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'Union européenne, donc ils sont bien obligés, et sur tous les secteurs d'activité, d'expliquer les règles selon lesquelles les Européens auront accès à leur secteur d'activité. Donc c'est normal qu'ils fassent... Avant, comme nous, il y avait la politique commune de la pêche. Là, ils vont devoir faire une politique britannique de la pêche et nous indiquer les conditions dans lesquelles, effectivement, ils vont donner accès aux pêcheurs français, européens. Et c'est, ils sont souverains, justement, pour définir les conditions.
Juste une toute petite question, de curiosité personnelle. Je ne sais pas si vous avez vu cette affaire où, dans l'océan Pacifique, on a mis des petites caméras sur les albatros, comme ça, ils sont allés filmer les bateaux qui sont en infraction.
Tout à fait.
C'est quelque chose qu'on pourrait envisager chez nous. Est-ce que ça peut se développer? Parce que
vous voulez mettre des. Sur les
mouettes, en l'occurrence. Ou sur les goélands, peut-être?
Sur les goélands.
Non, mais c'est sérieux ou pas?
C'est l'étaf. Ben, je vous parlais, justement. Ouais. Dans l'éther austral, hein, on pêche la légine, qui est un poisson et il y a beaucoup de piraterie, c'est-à-dire des bateaux qui n'ont même pas de pavillon et qui pêchent illégalement. Donc il y a un accord de surveillance avec les Australiens et les Français. Et c'est vrai que l'utilisation des oiseaux.
Il y a quelque chose qui peut se développer.
Oui, parce que c'est très loin. On a un satellite, ça coûte très cher. Et les oiseaux,
ça coûte pas cher. Comme quoi, voilà. Retour à la nature, ça tombe bien. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci, Hubert Carré, d'avoir été. Ici avec nous expliquer les enjeux de la pêche française. Merci beaucoup. Dans un instant, on change complètement de registre. On sera avec Carlos Pourasanta, qui est le patron de Microsoft pour la France. Avec lui, on parlera d'intelligence artificielle et la nouvelle feuille de route de Microsoft. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Il vient s'installer, on est déjà en retard. Carlos Pourasanta, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, patron de Microsoft pour la France. Mais pour l'instant, c'est Aurélie Planex, le rappel des titres.
Toyota décide de prolonger l'arrêt de ses usines chinoises jusqu'au 9 février. Conséquence de l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement. De son côté, la compagnie indonésienne Lion Air suspend tous ses vols vers la Chine, comme British Airways l'a déjà fait hier. Starbucks ferme la moitié de ses points de vente en Chine ce matin. La bourse de Hong Kong, qui était fermée depuis la fin de la semaine dernière en raison du Nouvel An chinois, a plongé de 2,8% en clôture. Des résultats exceptionnels pour Apple au premier trimestre de son exercice 2020. Chiffre d'affaires en hausse de 9%, publié hier soir, quasiment 92 milliards de dollars. Le bénéfice est à plus de 22 milliards. Jean-Pierre Clamadieu va prendre la direction opérationnelle d'Engie. Selon les informations de BFM Business, le président d'Engie va prendre la direction générale du groupe par intérim après le départ d'Isabelle Cochère. Départ qui devrait intervenir d'ici un mois. Ryanair touché de plein fouet par les retards de livraison du Boeing du 737 MAX. La compagnie irlandaise dit envisager de nouvelles suppressions d'emplois et des fermetures de bases. Ryanair attend 58 Boeing pour cet été, mais la remise en service de ces appareils ne cesse d'être repoussée, ce qui l'oblige à revoir son programme estival de vol. On termine avec la Bourse de Paris. Le CAC 40 progresse de 0,3% actuellement, 5946 points. L'euro-dollar 1,10 tout rond. Vous êtes sur BFM Business, il est midi 33.
Il est pas tout rond, n'importe. Merci beaucoup Aurélie. Aurélie Planex, dans un instant, c'est Carlo Pourasanta, le patron de Microsoft France, qui est notre invité. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de cybersécurité et puis des arbres. Très important, les arbres.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Carlos Pourasanta. Carlo Pourasanta, c'est l'habitude de parler de Carlos. En ce moment, on en parle beaucoup. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de Microsoft pour la France. Et puis, il y a quelques heures, vous avez dévoilé votre nouvelle feuille de route pour les 6 prochains mois. Vous étiez déjà venu l'année dernière. J'ai juste une question, deux questions d'actualité peut-être. D'abord, juste, pourquoi est-ce que vous publiez votre feuille de route pour la France, avant les résultats de Microsoft qui sont dévoilés ce soir?
Parce que nos opérations dans les pays sont pas forcément dépendantes des résultats. Les résultats viennent après les opérations. Donc là, simplement, on a un rendez-vous avec la presse, juste pour dire quelles sont nos actions, les engagements qu'on prend, comment nous travaillons avec nos clients, nos partenaires.
Oui, mais en même temps, ça dépend un peu de la santé, l'état de santé de l'entreprise, de savoir si l'année a été bonne ou moins bonne.
Ça, on saura ce soir, mais... Bon, l'année se porte bien, on continue à avoir des bons résultats. En France, ça évolue aussi très bien, donc ça nous permet de garder nos rendez-vous avec la presse, avec la confiance d'un business qui procède très bien.
Est-ce que vous êtes inquiet pour ce qui se passe en Chine? On a vu qu'Apple avait pris des mesures, aussi les gens de Peugeot, PSA. Est-ce que du côté de Microsoft, vous travaillez beaucoup avec la Chine? Est-ce que vous avez pris des mesures ou pas par rapport au coronavirus? coronavirus. Hein.
D'ailleurs le collègue qui gère les opérations en Chine, c'est Alain Crozier, qui était un de mes prédécesseurs. Mmh. Donc, dans des cas comme ça, effectivement, on monitore avec grande attention. Donc, il nous tient au courant. Il a ouvert une cellule de crise pour garder la situation en main. Ça veut dire aussi monitorer toutes les personnes, non seulement les collaborateurs qui sont en Chine, mais aussi des collaborateurs ou des partenaires de Microsoft qui sont en voyage en Chine. Donc, on a besoin de donner de l'information et de garder en alerte, on va dire, toutes les personnes qu'on peut adresser. Et donc, c'est ce que Alain fait. Et donc, c'est sous contrôle. Il garde la sérénité. Quand on peut travailler de la maison, donc la technologie permet de travailler sans se déplacer. Donc, aujourd'hui, on a des mesures juste de précaution pour faire attention à ce qui se passe.
Et autre question, enfin, d'actualité au sens très large. Là, j'étais donc à Davos, il y avait évidemment votre big boss, et puis il y avait aussi le directeur de l'environnement chez Microsoft.
Oui.
Microsoft qui a fait des grosses annonces, hein, et qui notamment a expliqué que vous voulez être neutre, avoir un bilan carbone neutre d'ici 2030 sur ce que vous faites actuellement, sur l'activité, et en 2050 sur l'activité que vous avez eue depuis la création de Microsoft.
Alors, en effet, c'est des annonces dont on est particulièrement fier. Le sujet déjà est très senti en France et en Europe, voire plus que dans d'autres plaques géographiques. Et les annonces de Microsoft sont remarquables parce qu'en fait, on va même au-delà de la neutralité. Nous sommes la première entreprise qui déclare que nous voulons être avec une empreinte carbone négative. Mmh. Dans ce cas-là, c'est quelque chose de positif.
Oui, même aller encore plus loin. Oui.
Ça veut dire que déjà en 2025, tous nos data centers vont être à 100% avec de l'énergie renouvelable. Ça, c'est très important. Mmh. D'ailleurs, Engie, dont j'entendais des nouvelles tout à l'heure, est une des entreprises qui nous aide à faire ça parce qu'avec des contrats de qu'on appelle PPA, donc des procurement, Power Procurement Agreement, on arrive à mettre de l'énergie renouvelable pour data centers. On va faire ça à 100% en 2025. Ensuite, on va continuer à travailler sur nos opérations bureau, travel, toute l'empreinte de l'entreprise, non seulement ce que nous produisons, mais notre chaîne d'approvisionnement, nos produits et ce que les clients font dans l'utilisation de nos produits. Donc, c'est l'ensemble du scope. À partir de 2030, nous allons en fait avoir une empreinte carbone négative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va réduire le carbone plus de ce que nous allons produire. Mm-hmm. Donc, on va être vertueux, et ça va nous permettre dans les 20 années successives, donc de 2030 à 2050, non seulement de continuer à être vertueux dans nos opérations, mais de récupérer toute l'empreinte carbone de Microsoft depuis sa naissance, en 1975. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de traces carbone de ce que Microsoft aura fait sur ses 75 ans.
Et notamment en plantant les arbres ?
Notamment avec de la réforestation, mais pas seulement. Mm. Nous avons annoncé un investissement important, parce que c'est 1 milliard sur 4 ans, pour aller continuer à développer des technologies qui peuvent absorber le carbone. Parce que oui, les arbres, bien sûr, c'est une des possibilités, mais aussi la technologie, c'est une autre possibilité. Et donc, on va travailler pour faire en sorte de pouvoir réabsorber du carbone avec de
Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'on parlait d'un aspirateur à carbone, donc ça faisait beaucoup sourire là-bas à Davos, y compris le patron de Total, mais ça existe. Sur quoi vous travaillez-vous ?
Il y a des technologies qui existent. On parle de bioénergie, on parle de pouvoir réabsorber le carbone et le mettre dans des éléments physiques pour le faire disparaître après. Donc, c'est de la chimie, Donc, s'il y a des technologies qui existent, on va les approfondir. Et l'investissement, c'est aussi pour aller découvrir, détecter et pousser les technologies qui n'existent pas encore, parce qu'on sait que l'équation est difficile à résoudre. Donc, on a besoin d'ambition et de courage pour aller...
Oui, parce que c'est un peu tout le paradoxe de votre économie, l'économie numérique, l'économie digitale. C'est que c'est sans doute une des économies qui est la plus consommatrice de CO2, qui est la plus nuisible pour la planète, avec des ordinateurs qui consomment beaucoup. Le cloud, qui est une des priorités, qui est au cœur de votre business, Carlo Pourasanta, on voit que c'est un peu contradictoire.
Alors, permettez-moi de démystifier, parce que c'est très important. Les data centers dans le monde, ça représente 4% de l'impact carbone de la planète. Donc, on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, ça semble beaucoup plus. En fait, c'est 4%. À partir du moment où une entreprise comme Microsoft, et on l'espère, tous nos compétiteurs dans l'écosystème vont nous suivre dans cette démarche de rendre les data centers énergie renouvelable et donc impact carbone neutre ou négatif, ça veut dire que ce 4%, on peut le réabsorber. Première chose. Deuxième chose, l'informatique peut et donc doit être utilisée pour aller changer les équations dans le 96% des autres industries, de l'agriculture, à le manufacturing, à la logistique. Et là, à chaque fois, il y a une empreinte carbone certaine où la technologie peut avoir un impact positif pour réduire le carbone émis. Et donc, je pense que, première étape, ce que dit Microsoft, c'est pour garder le cap de la COP21 et de Paris 2015, nous devons, si nous pouvons faire plus que le carbone neutre, donc la neutralité, il faut le faire, et c'est ce que Microsoft s'est engagé à faire. Et surtout, une fois qu'on aura fait ça et que notre écosystème de partenaires technologiques aura fait la même chose, la deuxième bataille, c'est comment la technologie peut aider à résoudre l'équation du carbone pour toutes les autres industries.
Et ces technologies, elles seront prêtes quand ? C'est très intéressant ce que vous dites.
Déjà, nos data centers, oui, on est engagé pour que déjà en 2025, ils soient, oui, neutres. C'est-à-dire, ils soient complètement basé sur énergie non renouvelable. C'est déjà beaucoup. Donc, ça veut dire, pour revenir à l'impact que Microsoft peut avoir vis-à-vis de nos clients, par exemple, quand on prend une application existante et qu'on la bouge dans un data center existant qui a un impact carbone donné vers un cloud comme Azure, ça veut dire qu'on est en train déjà de réduire l'empreinte carbone de cette entreprise. Mmh. Donc, et on parle, d'accord, de facteur de 3 à facteur 10. C'est-à-dire qu'on a un impact immédiat et très, très fort.
Mais on voit que c'est une révolution au sein même de Microsoft, parce que vous êtes patron de la France, et visiblement vous êtes très très au courant de ce qui se passe au niveau de votre maison mère. Donc ça veut dire que c'est pas que de la communication, il y a une vraie...
Absolument pas. Alors déjà, je vous disais, la France est un des pays où il y a le plus de sensibilité sur le sujet, donc nos clients français... Ouais. Avait engagé avec nous une discussion sur cette réduction d'empreinte carbone grâce justement au cloud, parce que c'est un facteur d'amélioration de leur empreinte, déjà avant les annonces de Microsoft. Donc ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs trimestres qu'on discute avec un certain nombre de grands clients français qui se posent cette question. Avec les annonces que maintenant la corporation a fait, on peut aller encore plus loin et plus vite, et c'est ce que nous sommes en train de discuter avec tous nos grands clients.
Feuille de route, notamment, c'est sur le cloud qui est vraiment devenu le cœur de votre business avec Azure. Comment est-ce que vous... D'abord, c'est quoi en France ? Je veux dire, comment ça a marché ? Comment ça progresse ?
Ça marche très bien. Ça double, pour donner des ordres de grandeur, ça double tous les ans depuis quelques années maintenant. Donc, le business va bien. C'est utilisé... on a des data centers en France, d'ailleurs, ce qui est très positif. Et donc, c'est une belle croissance qui accompagne notre écosystème et nos clients à se transformer. Donc, aujourd'hui, on a parlé un peu de ça. On a parlé de start-up. On a parlé d'un
accord. Vous avez un écosystème assez fort de 350 startups autour de
vous.
Voilà,
on est très fiers parce que c'est beaucoup de financement, de projets d'innovation. Et on a parlé de DataIQ qui a quand même un succès fantastique. 6 ans de vie, ils sont déjà une valorisation sur le marché d'1,4 milliard. Donc c'est quand même remarquable. Et ils ont un concept de démocratisation sur l'intelligence artificielle qui est très beau. C'est-à-dire comment rendre l'utilisation des données plus facile, plus consommable par les individus, sans passer forcément par des techniciens, sans que ce soit quelque chose de loin, de un peu cryptique et compliqué. Donc cette démocratisation de l'intelligence artificielle est importante parce que ça va impacter...
Ça se traduit comment ?
Pardon. Ça veut dire rendre les données d'une entreprise facilement utilisables par chaque personne de l'entreprise et pas seulement par des, d'accord, techniciens ou des data scientists. Donc tout le monde doit avoir accès aux données, au patrimoine de l'entreprise pour pouvoir opérer dans son métier. C'est ça que DataIQ fait.
Et juste votre écosystème de start-up, vous les faites travailler essentiellement sur quoi ? Sur l'intelligence artificielle, sur le cloud, sur...
Alors sur le cloud certainement,
sur les data,
plus en plus data et intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle une AI factory, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des partenariats...
Intelligence
artificielle, et sur des industries particulières. Oui. Donc par exemple, on dit comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur la santé ? Comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur la production, distribution, consommation d'énergie ? Et donc à chaque fois, c'est un partenaire qui s'engage avec nous. Donc, on a par exemple Schneider Electric, on a par exemple AstraZeneca sur la santé, on a par exemple récemment Danone sur l'alimentation. Donc, à chaque fois, on se pose la question, quelle start-up avec quel nouveau modèle et nouvelles idées sur la bonne utilisation des données de façon responsable pour aller avoir de l'impact sur une chaîne industrielle.
Justement, il y a énormément d'interrogations, que ce soit à Davos, mais encore même, je crois qu'il y a un grand forum sur la cybersécurité aujourd'hui. La question de toutes les datas que vous récupérez sur ce qu'on appelle le healthcare, sur la santé. Comment est-ce qu'on peut travailler sans mettre en danger les données des usagers ? Est-ce qu'il faut une règle mondiale ? Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Déjà, la chose la plus importante quand on parle de données...
Protection des données.
C'est la protection des données d'un point de vue de la sécurité. On parle souvent de Cloud Act ou de menaces autres.
Oui.
La première chose, en fait, c'est faire en sorte que quand la donnée est dans un data center, dans un lieu physique, qu'elle soit dans un coffre-fort. Ça, c'est la chose la plus importante. Les menaces de la cybersécurité actuelles font que les moyens à mettre en place pour pouvoir sécuriser les informations des citoyens ou des entreprises sont des moyens colossaux. Mmh. Nous sommes parmi les entreprises qui font ces investissements. C'est lourd, mais c'est super important de le faire. Et nous continuons à investir pour que Azure, nos clouds en général, soient d'abord sécurisés. C'est la plus grande menace, c'est du hacking, en fait.
Bien sûr.
Là-dessus, je considère que une information qui est dans Azure est plus sécurisée que quand elle est dans un serveur quelque part sur le territoire. Donc, on fait
étatique, de l'État, oui.
Indépendamment de qui le possède, mais c'est très difficile d'avoir les moyens, les processus et la continuité dans l'investissement pour garantir qu'un serveur opéré localement soit à la même, disons, niveau de défense qu'un cloud qu'on opère à niveau mondial.
Oui, mais en même temps, il faudrait une forme de régulation, comme il y a une régulation de l'Internet, comme là, il y a une régulation avec la protection des données au niveau de l'Union européenne. On voit bien que, notamment sur tout ce qui est domaine de santé, il y a un moment, il faudra quand même fixer des règles au niveau international.
Il y a des règles internationales et il y a des règles françaises. Donc, c'est ça qui est.
Oui, il y a toujours des règles en France.
Mais c'est bien, parce que les règles, comme vous le dites, ça sert pour créer un cadre et pour créer un contexte. Oui. D'ailleurs, vous avez cité le RGPD, très important, parce qu'on peut avoir quand même la satisfaction de voir que ce contexte créé en Europe. Non seulement, et nous les premiers, Microsoft était la première entreprise qui a dit « c'est une bonne idée, on va l'appliquer à tous nos produits et partout dans le monde, même dans les plaques géographiques où ce n'est pas demandé ». On était la première entreprise à faire ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont en train de légiférer sur quelque chose qui s'appelle « Privacy Act », qui reprend en fait les éléments du GDPR. Oui. Ça, c'est très important. Sur la santé, il y a des règles européennes, ISO, et il y a des règles françaises sur la gestion de la donnée. Azure a été, donc notre cloud, a été certifié 6 sur 6 et donc est certifié complètement pour être hébergeur de données de santé. C'est très important, c'est-à-dire qu'on respecte les règles et on peut être considéré ce coffre-fort pour mettre en sécurité les données.
Oui, mais vous voyez, Bernard Charles, le patron d'Assosystème que je recevais là à Davos, il disait au niveau de vraiment, on en a beaucoup parlé, de la santé, il faut quand même qu'il y ait un partenariat public-privé sur l'établissement de règles de confidentialité, mais pas seulement. On est en train de créer un jumeau numérique, il faut savoir jusqu'où on va, il y a des questions de déontologie.
Bien sûr.
Vous seriez partant
Nous, on est déjà dans une discussion permanente avec chaque gouvernement où Microsoft opère. Donc nous, en France, on est en discussion avec le gouvernement français. On est là pour être... On émet des idées aussi, on discute ces idées. Et de toute façon, on a la certitude que je peux vous donner, c'est que nous suivons avec intérêt non seulement les idées, mais les lois, et qu'on opère à chaque fois en respectant les lois. Donc s'il y a un changement de contexte...
Le
plus important, c'est de participer au débat et d'essayer d'élever toujours le niveau de discussion pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Sur l'intelligence artificielle et sur les données, nous avons même créé un collectif où il y a aujourd'hui plus de 45 organisations entre grands clients, start-up, partenaires et universités, juste pour dire... La donnée a du pouvoir, donc il y a de la responsabilité, donc il y a une éthique à appliquer. Et les résultats des travaux que nous faisons avec ce collectif, nous les partageons avec Cédrico et avec le gouvernement, justement, pour continuer à alimenter ce débat.
Carlo Poisson-Tatien, tiens, à propos taxe GAFA, vous auriez dû en payer combien en avril, l'acompte sur la taxe GAFA pour Microsoft France ?
Vous le dites vous-même, vous ajoutez pas le M dans l'acronyme. Donc pour nous, c'était marginal dans notre modèle parce qu'on n'est pas dans la monétisation des données. Donc ça nous concerne pas vraiment. Donc on verra. Là aussi, quand il y a des, on respecte les règles qui existent. Et si elles changent, on respectera les règles qui changent. On avait eu l'occasion d'en discuter ensemble.
Je sais, c'est
il y a un an.
La question, puis en plus, je posais la question à Bruno Le Maire justement.
Microsoft a été peut-être la première là-dessus. Je suis pas certain d'être la première, mais dans tous les cas, on a fait un choix que je trouve très pertinent de changer déjà notre modèle sur l'imposition il y a quelques années, quand on a évolué justement dans le modèle du cloud. On a rétabli en fait l'équation qui nous semble la meilleure de payer tous les impôts, non seulement en respectant les règles de chacun pays, mais en étant très conscient de là où la valeur est créée dans les différentes plaques géographiques dans lesquelles on opère, et en fait que l'impôt qu'on paye soit proportionnel aux activités que nous avons dans chaque pays. Donc je peux vous dire que on est bien positionné là-dessus.
Sur l'intelligence économique, quel est parce que c'est le grand enjeu, vous êtes d'accord, c'est ce que vous avez expliqué encore ce matin, mais quel est le modèle économique de l'intelligence artificielle ? Où est-ce que vous allez gagner de l'argent ?
Alors, fantastique question. Microsoft,
dire, mon avis, oui.
Très, très important parce qu'effectivement, il y a plusieurs modèles économiques dans l'utilisation des données. Microsoft a un parti pris absolument ferme sur le fait que notre seule monétisation est ce que le client nous paye pour l'utilisation de notre infrastructure. Les données, c'est les données du client. Nous ne monétisons pas les données du client. Nous ne regardons pas les données du client. Nous ne faisons rien si ce n'est opérer techniquement les données que le client nous met à disposition pour son business model. Ça, c'est extrêmement important. Donc, Satya, notre CEO, Satya Nadella, il dit, nous voulons être les COGS du monde. COGS, c'est un acronyme qui veut dire cost of goods. C'est-à-dire que si on considère le PIB du monde, ben, en fait, il y a une production, c'est les coûts. Ensuite, je dois le vendre, donc je mets du marketing, des ventes, c'est des OPEX. Et ensuite, j'ai un prix final. Donc, il y a des entreprises qui essaient de regarder dans des industries des poches de profitabilité qui disent ça m'intéresse. On veut monétiser dans ces industries. Nous, on dit, on veut être les coqs du monde. Donc, nous ne sommes qu'une infrastructure technologique puissante, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup...
Mais est-ce que vous pouvez gagner de l'argent, du coup?
Ben, on gagne de l'argent en vendant Azure, vend notre cloud.
Oui, mais ça, c'est le cloud,
Ah ben, c'est ça qu'on fait. Nous ne monétisons pas les données de nos clients. C'est le client, en fonction de son business, si c'est une voiture, si c'est un média, si c'est une entreprise de santé, etc., ils ont chacun leur business model. Les données de l'entreprise et des clients de l'entreprise, ça doit servir à ajouter de la valeur aux clients finaux, ça doit ajouter de la valeur à l'entreprise. La monétisation et le profit de cette utilisation des données, ça revient à l'entreprise. Nous ne sommes payés que pour l'infrastructure qui est utilisée.
D'accord. Nos super experts que vous connaissez bien, Anthony Morel et Fred Simotel, m'ont dit, vous travaillez sur une interface entre les cerveaux et la machine. C'est vrai ou pas?
Ah ben, on a toujours des projets de recherche.
Oui, je sais, les projets les plus fous. Mais justement, c'est intéressant de voir ça avec vous, parce que là, on est dans un univers qui évolue tellement vite. Vous travaillez sur cette interface?
Oui, parce que on est, et d'ailleurs, depuis que Satya est notre CEO monde, il a, je dois dire, amené à l'ensemble des collaborateurs une sensibilité accrue, je dirais, sur l'accessibilité. C'est-à-dire que nous avons 20% des citoyens du monde qui ont un problème d'accessibilité parce que peu ou malvoyant ou non-voyant, problème auditif, problème cognitif, etc. Donc, l'interaction entre homme et machine peut certainement résoudre des équations fantastiques. Par exemple, il y a un exemple que j'ai toujours beaucoup aimé. Une femme qui avait un problème de Parkinson, donc elle avait un tremblement de la main. Un chercheur de Microsoft, grâce à un bracelet, donc quelque chose de relativement simple, a utilisé le cloud, l'intelligence artificielle, pour reconnaître les mouvements de tremblement de la main suffisamment en avance pour faire arriver dans le bracelet un signal antinomique à ce que la main aurait fait. Et donc, cette femme, aujourd'hui, elle peut écrire. Elle avait 35 ans quand elle a pu écrire son nom pour la première fois, juste parce que le bracelet était un bracelet augmenté par l'intelligence artificielle.
Ça fait ça assez fabuleux,
donc,
hein, tout ce qui se passe.
Ça veut dire qu'on peut aider, par exemple, quelqu'un qui ne voit pas à interagir, à lire un texte, à formuler un texte de façon beaucoup plus simple. Avoir un agent qui peut détecter le monde et le raconter à quelqu'un. Donc, il y a plein. Et demain, pourquoi pas, pouvoir bouger simplement avec la force du cerveau et qui peut donc communiquer avec une machine qui peut nous faire bouger sur un territoire. Donc ça, c'est très important.
Alors là, c'est plutôt l'ancien monde, mais juste une petite précision peut-être, parce qu'on a pas mal de chefs d'entreprise ou de cadres supérieurs qui nous écoutent. Vous avez annoncé l'arrêt de Windows 7 et en même temps, vous venez de faire une mise à jour. Donc ça veut dire quand même que vous continuez. Il y a encore 30% des entreprises en France, je crois, qui sont équipées de Windows 7. Comment ça se passe, vous allez...
Ouais, alors, là-dessus, Microsoft a une politique qui est super claire et super cohérente, c'est-à-dire qu'on est une entreprise qui a une politique super claire sur le support. Donc, c'est 5 plus 5, c'est 10 ans. Au bout de 10 ans, effectivement, la technologie évolue, donc on change. D'ailleurs, pour les clients qui ont un projet de remplacement avec une technologie plus moderne, mais qui ont toujours une partie du parc, il y a des possibilités pour pouvoir continuer à garantir un support, c'est pas ce qu'on recommande. Enfin, c'est quand même mieux d'évoluer sur de nouvelles technologies, tout simplement pour les questions qu'on se posait tout à l'heure, c'est-à-dire la sécurité. La sécurité de Windows 10 n'a pas de commune mesure avec la sécurité de Windows 7. Donc, si on veut être dans un environnement béton, dans un coffre-fort, il faut être sur Windows 10. Donc le passage est important. On accompagne les clients avec la bonne vitesse, mais on espère voilà, que la vitesse soit la vitesse nécessaire pour passer aux technologies plus modernes.
Il y en a combien qui sont passés à la technologie plus moderne, pour reprendre votre
expression? C'est une grande majorité quand même. D'accord. Il y a beaucoup.
Y compris dans les petites entreprises, enfin des ETI ou des.
Oui, il n'y a pas énormément de différence entre les grandes et les petites. Les petites, effectivement, on peut considérer que peut-être ils ont moins de moyens, mais ils ont aussi plus d'agilité et moins d'applications que peut-être qu'ils ont développées dans le temps. Donc en fait, c'est plus facile pour une petite entreprise de bouger directement sur Windows 10.
La dernière fois que vous étiez venu nous voir, ça sera le mot de la fin, vous nous aviez parlé de ce smartphone à double écran, vous rappelez? Bon, vous l'avez lancé un petit peu plus tard, vous en êtes où? Est-ce que c'est encore une technologie que vous suivez?
Alors, nous avons annoncé, c'était une première, c'est-à-dire qu'en septembre, nous avons annoncé l'arrivée de deux produits qui sont deux en un, donc effectivement une espèce de smartphone et un ordinateur qui est double. Et en fait, on vient d'avoir à disposition, le SDK pour les développeurs, donc c'est-à-dire que l'écosystème de développeurs peut commencer à développer pour ces nouveaux écrans. Et donc, voilà, c'est un parcours qui va nous amener à la rentrée 2020 avec ces produits qui vont sortir.
Il faudra attendre septembre 2020.
Il faut attendre la rentrée 2020, ouais. Non seulement pour nos produits, mais en général avec Windows 10 X, en fait, ça sera la possibilité pour tous nos partenaires de développer du double écran. Et donc, ça va être une nouvelle façon d'utiliser l'informatique dans le futur.
Merci beaucoup. Voilà. Puis avec le côté peut-être plus sexy, j'ai envie de dire, peut-être d'un Apple. Et vous allez faire ça maintenant avec Microsoft. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Carlos Purasanta, le patron de Microsoft pour la France, était notre invité. Voilà, c'est la fin de l'RH. On se retrouve bien sûr demain à 8h15, Christian Doyer. Toujours à propos du Brexit et puis l'RH. Comme tous les jours, bonne journée.